Vous écoutez France Culture, il est 12h30. Le journal de la rédaction vous est présenté par Antoine Maret. Bonjour.
Bonjour. Journée déterminante pour le président brésilien Michel Temer. Il est accusé de corruption. Il pourrait être écarté du pouvoir aujourd'hui pour 6 mois. Au Venezuela, après les manifestations contre l'élection de l'Assemblée constituante, c'est maintenant la légitimité du scrutin qui est remise en cause. Il y aurait des incohérences dans le décompte de la commission électorale. Dans l'actualité française, une promesse d'Emmanuel Macron qui s'envole. Le chef de l'État a finalement annulé les 300 millions d'euros de dotations aux collectivités locales. Chez les élus locaux. Et puis cette annonce de Nicolas Hulot, le ministre de la Transition écologique et solidaire veut créer un groupe de réflexion sur le bien-être animal, groupe placé sous l'autorité d'un philosophe et d'un parlementaire. 12h45, la grande table d'été avec vous, Géraldine Mostasavoie.
Ce sera une invitation à plonger dans deux univers fascinants, celui en première partie du créateur d'Alien, H.R. Giger, à l'occasion d'une rétrospective qui lui est consacrée au lieu unique à Nantes, et l'univers non moins organique de l'artiste Gloria Friedman que nous rencontrons en seconde partie.
On vous retrouve dans 14 minutes. Le Brésil se réveille et s'apprête à vivre une journée décisive. Le président Michel Temer est accusé de corruption. Il doit être fixé sur son sort aujourd'hui grâce à un vote du Parlement. Si les deux tiers des députés décident d'un procès devant la Cour suprême, le chef de l'État risque d'être inculpé et écarté du pouvoir pour 6 mois. Bonjour Marie-France Abastado.
Bonjour.
Michel Temer semble assez sûr de lui et pourtant il pourrait bien être écarté du pouvoir.
Michel Temer pourrait en effet être inculpé. En juin dernier, le procureur général du Brésil avait demandé une mise en accusation formelle contre le président pour avoir pratiqué de la corruption passive. Il aurait été enregistré en train de donner son assentiment pour le versement d'un pot de vin visant à acheter le silence d'un député emprisonné à cause de son implication dans le scandale Petrobras. Michel Temer est aussi soupçonné d'avoir accepté à travers un de ses hommes de confiance un pot de vin de 140 000 euros de la part du géant de la viande JBS, une entreprise déjà impliquée dans un immense scandale de corruption. Donc, le vote à l'Assemblée aujourd'hui servira à décider si la mise en accusation est acceptée, se joue en coulisses des tractations pour que chaque camp puisse attirer le maximum de votes en sa faveur. Il faudra que les deux tiers des députés, vous le disiez Antoine, soient 342 voix sur 513, appuient la demande de mise en accusation du procureur général pour que le dossier soit renvoyé en Cour suprême. Si c'était le cas, le président serait écarté du pouvoir pendant 6 mois. Michel Temer, je le rappelle, a accédé à la présidence à titre intérimaire en mai 2016 en remplacement de Dilma Rousseff, elle-même écartée du pouvoir au terme d'une procédure de destitution pour maquillage de comptes publics. La présidente de gauche avait accusé Michel Temer, alors vice-président de centre-droit, d'avoir largement contribué à la faire tomber.
Merci Marie-France Abastado. Au Venezuela, la situation reste tendue 3 jours après l'élection de l'Assemblée constituante. Un scrutin voulu par le président Maduro est très critiqué par la communauté internationale. L'opposition, dont 2 figures ont été arrêtées, manifestera demain contre cette Assemblée qu'elle juge illégitime. Une légitimité également mise en question par Reuters aujourd'hui. Bonjour Marina Capitaine.
Bonjour.
L'agence de presse évoque une incohérence dans le décompte de la commission électorale vénézuélienne.
Reuters a eu accès aux données de la commission électorale portant sur l'ensemble des bureaux de vote du pays et selon ces chiffres, 3,7 millions de Vénézuéliens avaient voté dimanche à 17h30. Or, le président Maduro revendique 8,1 millions d'électeurs. Alors, même si les bureaux sont effectivement restés ouverts après 17h30, cet écart de 4,5 millions d'électeurs reste difficile à expliquer.
Alors, cette incohérence apporte de l'eau au moulin de ceux qui, depuis dimanche, accusent le pouvoir de mentir sur le taux de participation.
Officiellement, ce taux est de 41,53%, un taux extraordinaire selon la présidente du Conseil national électorale. Je suis absolument certaine que ces chiffres ne sont pas corrects, avait déclaré lundi la procureure en chef dissidente Luisa Ortega. Pour l'opposition vénézuélienne, le taux de participation serait plutôt à 12%. Elle dénonce des fraudes et a diffusé des vidéos de bureaux de vote vides, de rues désertes dimanche. Reuters précise que les autorités vénézuéliennes n'ont pas répondu à leur demande de commentaires sur les données de la commission électorale.
Merci à vous, Marina Capitaine. Et puis toujours à propos du Venezuela, on on attendait depuis pas mal de temps déjà une réaction de Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le député de la France insoumise Éric Coquerel qui s'est exprimé. Il a estimé que ce pays, je cite, n'est pas une dictature. Il a ajouté, on peut juger de la manière dont se fait la répression, on peut juger de la manière dont Nicolas Maduro essaye de sortir de l'ornière, mais je pense, selon lui, qu'il y a des pouces à l'affrontement des deux côtés. Il a par ailleurs déclaré que l'idée de Maduro de créer une assemblée constituante est une bonne idée, la seule solution si on veut éviter la guerre civile. Fin de citation. Dans quelques jours, mardi prochain pour être précis, il y aura des élections générales au Kenya. 19 millions d'électeurs seront appelés aux urnes pour élire leur président, leurs députés, mais aussi leurs dirigeants locaux. À Nairobi, il s'agit de désigner le gouverneur, c'est l'équivalent du maire. La ville avec ses 4 millions d'habitants est la capitale incontournable de l'Afrique de l'Est. Et le favori de la course comme gouverneur s'appelle Mike Sonko. Un sénateur, personnage très populaire chez les classes défavorisées, au style gangsta rap et haut en couleur, mais aussi très controversé avec un passé criminel chargé. Bruno Meyerfeld, notre correspondant à Nairobi, l'a rencontré lors d'une conférence de presse.
Avec ses jeans délavés, ses bagouses et ses colliers dorés, Mike Sonko cultive son style bling bling et le favori de la course à Nairobi ne compte surtout pas y renoncer.
Je ne compte pas changer mon style. Au pouvoir, je vais rester le même. Je ne mettrai un costume que lorsque j'irai dans des cérémonies officielles.
Sonko, venu d'un milieu très modeste, est le politique le plus populaire du Kenya, connu pour ses rescue teams, des brigades d'intervention rapide, capables d'emmener à toute vitesse et gratuitement un malade à l'hôpital ou un marié à l'église. Une image qui plaît à tous, selon Gabriel Lynch, spécialiste de la politique kenyane.
Sonko a une popularité très large qui transcende les classes sociales et les groupes ethniques kenyans. Il est vu comme un homme efficace, capable de résoudre les problèmes des gens. Il est l'un des seuls capables d'obtenir des voix dans la majorité comme chez l'opposition.
Mais Sonko est un nom qui sent le soufre. L'homme a un casier judiciaire chargé. Il est accusé depuis des années d'être l'un des plus gros barons de la drogue du Kenya. De quoi inquiéter en haut lieu, selon l'analyste Dismas Mokua.
La capitale Nairobi produit 60% du produit intérieur brut kenyan. Cette ville a besoin d'un gouverneur compétent, capable d'aller à Wall Street ou ailleurs négocier avec des investisseurs. Et la question est, Sonko peut-il diriger cette ville? Pour l'instant, il n'a pas l'air d'en avoir l'infrastructure intellectuelle.
Mais qu'importe l'élite, Sonko voit déjà plus loin que Nairobi. Il l'a dit, si l'occasion se présente, il sera candidat à la présidentielle.
Le patron de Ryanair, inquiet sur les conséquences du Brexit, Michael O'Leary a rencontré ce matin à Londres le ministre des Transports britannique, Chris Grayling. Le PDG de la compagnie low cost est un fervent opposant au Brexit et il a mis en garde contre ses retombées pour la libre circulation aérienne des compagnies basées en Grande-Bretagne, Antoine Poitot.
Oui, déjà le mois dernier, le patron de la compagnie irlandaise redoutait les effets de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne et annonçait que les compagnies françaises et allemandes s'en léchaient les babines. Il avait d'ailleurs annoncé que Ryanair, qui transporte plus de 30 millions de Britanniques par an, serait susceptible de ne plus assurer de vol entre le Royaume-Uni et l'Europe une fois le Brexit consommé. Il faut dire que mars 2019, date d'entrée en vigueur du Brexit, sera de fait la date de fin de l'Open Sky Agreement pour les compagnies basées en Grande-Bretagne. En somme, la fin de la possibilité de circuler sans entrave au sein des 28 États membres. La compagnie low cost a annoncé qu'elle pourrait retirer ses appareils des aéroports britanniques pour les rapatrier en Irlande ou sur le continent européen. Et c'est d'ailleurs ce qu'a déjà commencé de faire une autre compagnie à bas coût britannique, EasyJet, qui a relocalisé une grande partie de ses avions en Autriche afin de maintenir son activité au sein de ce libre espace de circulation. Se faisant la porte-voix des compagnies basées en Grande-Bretagne qui planifient leur vol un an à l'avance, Chris O'Leary veut pousser le gouvernement britannique à mettre en place avant l'automne 2018 un nouvel accord sur la circulation aérienne. Passé cette date, affirme-t-il, il sera dans l'obligation d'annuler les vols de l'été 2019.
Merci Antoine Poitot. C'est officiel depuis ce matin, le Luxembourg s'ouvre aux entreprises du monde entier en leur offrant la première plateforme dédiée à l'exploitation commerciale de l'espace. Rien n'y manque, encadrement juridique, garantie de l'État, capitaux risques. Ancien patron de l'Agence spatiale européenne, le vice-premier ministre, et ministre de l'économie, le socialiste Étienne Schneider, s'intéresse en particulier aux minerais de l'espace. Je propose de l'écouter au micro de Quentin Dickinson.
En fait, c'est des minerais que vous trouvez également sur la Terre. Ça peut être de l'or, ça peut être du platinum, ça peut être les terres rares, en fait, comme on les appelle, dont on aura besoin dans l'avenir pour faire produire des téléphones portables, des ordinateurs, etc. Nous comptons actuellement 14 000 objets célestes qui tournent autour de la Terre et qui sont accessibles. Donc on estime qu'une dizaine de pourcents de ces objets célestes ont une vraie valeur, donc où il y a vraiment des minerais dont on aura besoin, qu'on pourra récolter à l'avenir. Mais je dirais que tout au début, ce qui est le plus important pour l'instant, c'est la glace qui se trouve sur la Lune, par exemple, ou la glace qui se trouve sur les astéroïdes, qu'on va utiliser pour la transformer, par exemple, en hydrogène, qui sera nécessaire à refaire le plein des satellites qui se trouvent autour de la Terre. La glace qui se trouve dans l'espace a déjà une valeur énorme.
Un nouvel attentat revendiqué par les talibans en Afghanistan. Une voiture suicide a visé un convoi de l'OTAN près de Kandahar, dans le sud du pays. Il y a des victimes, selon un porte-parole de la coalition, mais on n'en sait pas plus pour le moment. C'était une promesse du président Macron. Il affirmait le 17 juillet dernier qu'il ne toucherait pas aux crédits alloués aux collectivités locales. Mais c'est une promesse qui ne sera pas honorée. Emmanuel Macron a finalement annulé les 300 millions d'euros de dotation, ce qui provoque le courroux des élus locaux, soutenu notamment par le député LR du Pas-de-Calais, Daniel Fasquel.
Sur la méthode, c'est un énième revirement d'Emmanuel Macron sur les questions financières et budgétaires. On l'avait vu s'agissant de l'armée, par exemple, on avait annoncé une augmentation du budget de l'armée et puis il y a eu cette réduction brutale du budget de l'armée. Et maintenant, c'est s'agissant des collectivités territoriales. Vous avez dit qu'on ne toucherait pas une dotation, puis maintenant on annonce un coup de rabot. C'est extrêmement préoccupant parce que ce sont les services publics dans les communes qui vont être déstabilisés. C'est aussi l'investissement public et donc l'emploi, en particulier dans les territoires ruraux, qui va être remis en cause. On sait très bien qu'aujourd'hui, les collectivités, notamment les petites communes rurales, elles ont un budget qui est extrêmement contraint et restreint et ne peuvent plus faire d'économie. Et puis, s'agissant de leur budget d'investissement, là aussi, ce budget d'investissement a été considérablement réduit en raison des coups de rabot de M. Hollande. Et les coups de rabot de M. Macron risquent malheureusement de provoquer de très graves difficultés. Alors si l'objectif c'est de supprimer les communes en France, de supprimer tous les contre-pouvoirs, parce qu'on voit bien qu'on a, après avoir affaibli l'Assemblée nationale, on veut maintenant affaiblir les communes, il faut le dire clairement et carrément. Mais on a besoin d'un Parlement fort face à ce pouvoir présidentiel qui ne cesse de vouloir s'emparer tous les leviers. On a besoin aussi de collectivités territoriales fortes, puis on a besoin de services publics et d'investissements dans ces collectivités territoriales.
Daniel Fasquel au micro d'Ilan Malka. Nicolas Hulot veut créer un groupe de réflexion sur le bien-être animal. C'est ce qu'il a affirmé ce matin sur France Inter. Le ministre de la Transition écologique et solidaire souhaite le placer sous l'autorité d'un philosophe et d'un parlementaire. Nicolas Hulot réagissait à l'interdiction de la reproduction des dauphins et des orques en captivité. On l'écoute.
Je vais créer un groupe de réflexion sur le bien-être animal. C'est un sujet de société. Il ne faut pas avoir peur de l'aborder. Ça n'est pas opposer les humains aux animaux, c'est justement, me semble-t-il, un indice de civilisation, d'être capable de se poser des questions essentielles sur le bien-être animal. Et j'ai l'intention de confier à un philosophe et un parlementaire un groupe de réflexion sur ce sujet-là. Déjà, dans le Code civil, on a légèrement amélioré le statut de l'animal, mais ça n'est absolument pas suffisant. Moi, je ne suis pas évidemment favorable à la captivité des animaux. Je ne suis pas favorable à l'idée qu'on fasse du spectacle avec cette captivité-là. L'actualité aussi nous rappelle qu'il y a des formes de cruauté aujourd'hui qui sont communément admises et qui sont pour moi inadmissibles. Donc je veux prendre justement le sujet d'une manière très profonde.
Nicolas Hulot, interrogé par Pierre Veil. La SNCF va publier demain ou après-demain le rapport sur la panne qui a fortement perturbé le trafic en gare Montparnasse pendant 3 jours. C'est ce qu'a annoncé le président du groupe, Guillaume Pepy. Le gouvernement lui avait demandé hier de s'expliquer sur les perturbations et leurs répercussions en plein week-end de chassés-croisés. Beau temps cet après-midi sur la majeure partie du pays, à l'exception de la Bretagne et de la Normandie qui seront sous la pluie. Température globalement en hausse, seulement 19 à Cherbourg, mais 27 à Paris, 31 à Clermont-Ferrand et 36 à Ajaccio. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun. J'aurai le plaisir de vous représenter le prochain journal à 18h.